Nous voulons vous souhaiter la bienvenue à la première partie de notre série de messages sur l'Évangile de Jean, chapitre par chapitre, intitulé « La source ». Nous voulons vous inviter à plonger avec nous pendant tout cet automne dans la source. Je vous promets que l'Évangile de Jean va prendre vie d'une façon toute nouvelle pour vous, que vous ne lirez plus jamais l'Évangile de Jean de la même façon qu'il va percuter votre cœur. Nous voulons vous souhaiter la bienvenue ici et aussi aux milliers qui suivent déjà, qui nous suivent en ce moment par Facebook Live. À la première réunion Facebook Live, il y avait plein de réactions, plein de gens qui écrivaient, et aussi ceux qui vont télécharger les messages multisites, les églises multisites et autres qui vont télécharger les messages. Cette série est pour ceux qui ont soif. Jésus a dit que celui qui a soif vienne à moi et je vais lui donner des eaux vives, une source d'eau vive va couler de son sein. Alors ce matin et pendant toute l'automne, cette série est pour ceux qui ont soif. Pour ceux qui ont soif de vitalité. Il y a besoin d'une vie nouvelle à ma vie de prière ou besoin d'une vie nouvelle à mon témoignage, une vie nouvelle à ma louange, une vie nouvelle, point d'une vitalité surnaturelle. L'Évangile de Jean va, les flots vont couler. La source va jaillir, la source va couler pendant tout cet automne. Ceux qui ont soif aussi de vision, c'est un évangile qui nous donne une vision extraordinaire. La vision de Dieu pour nous, la vision de Dieu par nous, la vision de Dieu pour les gens autour de nous, la vision de Dieu pour ceux qui cherchent la volonté de Dieu. Il y a dans l'évangile de Jean des clés pour aller chercher, vous emparer, découvrir, développer la volonté de Dieu pour votre vie. Si vous cherchez la volonté de Dieu cet automne, ne manquez pas un seul dimanche de cette série. C'est aussi une série pour ceux, le prochain message que je vais apporter va être sur le chapitre 2, le premier miracle de Jésus, ceux qui ont soif d'un vin nouveau. J'aimerais déclarer que le vin va couler à flot à Nouvelle Vie cet automne. Il y en a qui sont pas sûrs. Le vin spirituel de Dieu va couler à flot cet automne. Il y en a qui sont rassurés. Pour ceux aussi qui ont soif de vérité. La vérité, le chemin, la vérité, la vie. D'une manière, je prie et j'étais encouragé par cette parole d'intercession ce matin de quelqu'un qui a envoyé ce message. Tiens-toi avec foi et courage et prends autorité. Et cet automne, les messages que Dieu met sur mon cœur vont demander un courage spirituel, le courage de prononcer la vérité, parce que c'est la vérité qui nous rend libres. C'est la vérité qui nous libère et je veux, je crois, je sais que Dieu va libérer des âmes, libérer des cœurs, libérer des appels dans ce lieu cet automne à Nouvelle Vie. Ceux qui ont soif de vérité, la soif de la source. Plusieurs endroits, on va les découvrir dans Jean. Jésus adresse la source. Et on en regarde un ce matin en introduction. Dans Jean chapitre 4, il y a, le texte va apparaître à l'écran, une rencontre de Jésus avec une femme samaritaine. Pour un peu de contexte, pour ceux qui sont nouveaux aux choses bibliques, dans le Nouveau Testament, à l'époque du Nouveau Testament, Jésus est venu pour libérer et pour émanciper, mais dans l'époque du Nouveau Testament, la femme était dans une position où elle était abattue, où elle était sans droit, et en plus de cela, il y avait des nationalités, il y avait des ethnies qui étaient méprisées, qui étaient victimes de racisme d'une manière terrible, les Samaritains en étaient, et cette femme était une femme samaritaine, et en plus, dans une société où il y avait de la part des Juifs une dimension de jugement, de légalisme sur tout écart moral, cette femme était samaritaine. Elle était une femme et une femme qui avait eu 5 maris. Elle était avec un sixième homme. Alors, une espèce d'Elizabeth Taylor des temps anciens, référence trop vieille pour la majorité d'entre vous qui ne savent même pas de qui je parle. Alors, vous irez voir ça sur Wiki. Alors, une femme avec une vie troublée, une vie déchirée, et elle vient à un puits pour aller chercher son eau, mais à un moment, au milieu de la journée, où elle sait qu'il va y avoir personne parce qu'elle est toujours victime de mépris. Et là, dans une rencontre divine, Jésus vient et a une rencontre avec elle, et elle commence à lui parler de ses philosophies, de tout son bagage religieux, de tout ce qu'elle a essayé dans le passé. Et Jésus lui dit, au verset 13, chapitre 4, verset 13, Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que moi je vais lui donner n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Et la femme lui dit, quel cri du cœur. La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et afin que je n'ai plus à venir ici. » Il y a quelque chose d'universel dans cette conversation. Nous y retrouvons l'insatisfaction intérieure de notre soif en tant qu'être humain. Il y a quelque chose à chaque personne, que ce soit votre âge, à chaque étape de la vie, nous découvrons qu'il y a des choses dans lesquelles Jésus a dit, si tu continues à boire de cette eau-là, tu ne seras jamais satisfait. Tu vas toujours avoir soif. Et tellement d'entre nous, et par Internet, des dizaines de milliers d'entre nous avons découvert qu'il y a des choses qu'à une époque, on pensait que ce soit le religieux ou que ce soit le matériel ou le prestige ou même le relationnel ou si j'ai ça, je vais être satisfait. Si j'ai ça. Et il y a, je pense toujours à cette conversation que nous avons déjà vue ici, une interview qu'on avait vue de Yvon Deschamps qui disait j'ai tout, je devrais tout, j'ai tout pour être heureux, j'ai une carrière où les gens m'ont apprécié, j'ai une bonne famille, j'ai une sécurité matérielle, j'ai accompli des choses dans ma vie, j'ai l'appréciation de tous, je devrais être tellement heureux, pourtant je ne suis pas, il manque quelque chose. Il y a un vide. Et c'est la soif intérieure. Et nous allons découvrir à travers l'Évangile de Jean, c'est fascinant, c'est puissant, comment Jésus vient, comment une relation avec le Seigneur vient rencontrer chaque soif de l'expérience humaine. Et même il y a non seulement l'insatisfaction intérieure, et je ressens que c'est tellement à pointer de Dieu cette série, qu'un grand nombre d'entre nous, il y a une insatisfaction dans notre âme, même spirituelle. Seigneur, nous avons soif pour quelque chose de vrai, de plus, de vivant, quelque chose de surnaturel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut rugir avec moi? C'est moi, j'ai soif. Il y a même une intention universelle à notre soif dans ce texte. Lorsque Jésus dit, non seulement je vais te donner une eau qui va satisfaire ton âme, mais je vais faire de toi une source qui va jaillir sur d'autres. Il y a dans chacun d'entre nous tellement, je pense à ma fille et d'autres qui sont intervenantes au 21-59 et les jeunes mamans qui arrivent. Et chaque jeune personne qui est là a un désir d'amener, de donner plus, de donner quelque chose de bon à son enfant. Il y a dans chacun d'entre nous un désir d'être une source pour quelqu'un d'autre, de donner plus, d'être plus. Il y a une soif en nous, quelque chose de nous qui jaillisse vers les gens autour de nous. À nous-mêmes, on n'est pas capable, on ne sait pas quoi dire, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas comment renverser la situation. Mais Dieu dit à cet automne, vous allez trouver la source pour vous-même. Mais je veux faire de toi une source qui va abreuver d'autres personnes autour de toi d'une façon que tu ne peux même pas imaginer. Il y a une intention universelle à notre soif, une insatisfaction intérieure, et il y a une introspection et une incapacité. Il y a une humilité, il y a une reconnaissance du cœur dans les paroles de cette femme-là qui sont tellement, tellement touchantes, tellement universelles, qui nous rejoignent. Elle vient et elle dit, Seigneur, lui dit, si tu continues à boire de cette eau-là, tu vas toujours avoir soif. Moi, je peux te donner une eau. Tu n'auras plus jamais soif, une source. Et toi-même, tu vas devenir une source. Et là, ces mots sont remplis d'espoir. Elle dit, Seigneur, et aussi de dégoût pour ça. Il faut que ça arrête. Il y a des portions de ma vie qu'il faut qu'elle arrête. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Délivre-moi de patterns qui me détruisent. Je suis toujours pris pour venir ici. Je suis toujours pris pour... Délivre-moi de mes dépendances. Délivre-moi de mes codépendances. Et je déclare par la foi cet automne qu'il y a des patterns de ta vie. Il y a des choses dans la mienne et dans la tienne. Seigneur, cet automne, remplis-moi d'une eau vive. Je veux plus venir boire ici. Je veux aller à l'endroit où toi tu es. Dans toi, ce que tu as préparé pour moi. Dans l'intro, c'est le message d'intro ce matin. Nous allons regarder à Jean, chapitre 1, tournez dans vos Bibles à Jean, le premier chapitre, et regardez ensemble la motivation et l'auteur de la source, le message et les aspirations de la source, et la mesure du miraculeux et l'appel d'amour de la source. Quelle était l'intention divine à travers cet évangile inspiré par l'Esprit? Qui était Jean? Qui était celui que Dieu a choisi pour communiquer ce message qui a changé déjà l'Évangile de Jean à travers les siècles? Pensez-y, la destinée de centaines de millions de personnes, leur destinée sur cette terre et leur destinée éternelle. On commence, ça prend cette intro pour nous situer. La motivation, quelle était l'intention divine et l'auteur de la source? Jean chapitre 1 au verset 14, d'une manière concise et tellement magnifique, l'apôtre Jean nous donne le centre de son Évangile. Et la parole a été faite chair. Elle a habité. Il parle de Jésus, il le décrit comme étant la parole. Je vais expliquer pourquoi dans un instant. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Jean, on l'a côtoyé, on a contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Dieu s'est fait Charles, le message. Savez-vous, j'aime tellement Jean, parce que Jean passe par-dessus tout et il va à l'essentiel. Jean nous donne ici, on est plusieurs mois à l'avance, mais Jean nous donne ici ce que nous célébrons à Noël. Il donne le récit, il donne le sens profond de Noël, sans les mages et les bergers et les tables et la paille et les ânes et les anges. Il dit, savez-vous, c'est quoi ce que nous célébrons, le sens de ce que nous sommes, ce qui rend tout possible, c'est que Dieu est devenu humain. Le divin est devenu humain. Dieu s'est fait chair et Dieu s'est fait humain. C'est critique pour toi, pour moi, plus que tu l'imagines, de comprendre que la réalité spirituelle non négociable, que le Dieu éternel, infini, transcendant, tout-puissant, omniprésent, omniscient, éternel, inchangeable, immuable, le Dieu de l'univers est devenu un être humain pour moi. Pour toi, il est devenu un être humain pour moi. L'invisible est devenu visible. Le divin est devenu humain. La parole Dieu divin est devenu homme, est devenu chair, ginomé en grec, parce que Dieu ne change pas. Il ne grandit pas, il ne diminue pas. Dieu n'est à aucun moment, à aucun point manquant de quoi que ce soit. Dieu n'a jamais un manque d'information de quoi que ce soit. Dieu n'est jamais en quoi que ce soit incomplet ou atteint. Il est Dieu, il est parfait, il est éternel, il est immuable. Il ne devient pas Dieu, mais il devient homme pour nous. Il devient homme pour nous. Il devient meilleur pour chacun d'entre nous. L'incarnation, c'est l'événement où Dieu a pris la plénitude de l'humanité, totalement homme, en demeurant tenté en toutes choses afin de secourir ceux qui sont tentés, en demeurant pleinement Dieu. La motivation de Dieu dans l'Évangile de Jean, c'est que nous puissions connaître Christ et que nous puissions croire, connaître Dieu en Christ et croire en Dieu en Christ. Il le dit d'une manière sans équivoque dans Jean chapitre 20, verset 31. Mais ces choses ont été écrites, pourquoi? Son évangile, pourquoi est-ce que je l'ai écrit? Pourquoi est-ce que l'Esprit de Dieu m'a inspiré à l'écrire? Afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie abondante et la vie éternelle en son nom. Maintenant, c'est tellement le cœur de l'Évangile que si vous lisez l'Évangile de Jean, je vous invite tout le monde à y aller chapitre par chapitre, juste à le lire une fois, deux fois, trois fois cet automne. On va toujours annoncer à l'avance la semaine prochaine, comme le prochain message, aller dans Jean chapitre 2. On va y aller ensemble, on va le traverser ensemble. Mais vous allez trouver que le mot « croire » dans l'Évangile de Jean est trouvé 100 fois « croire » et le mot « Christ » 170 fois. Le cœur, la motivation, c'est que chacun puisse croire en Christ afin que tu puisses croire et recevoir. La motivation, le contexte est très important et il est tellement actuel. C'est des choses qui ont pris il y a 2000 ans, mais l'Esprit de Dieu a pris place il y a 2000 ans. L'Esprit de Dieu inspire Jean. À un moment, il écrit cet évangile sous l'inspiration de l'Esprit parce qu'il faisait face, il combattait, il confrontait, il combattait deux courants, des courants religieux, des courants philosophiques qui sont encore infiniment présents partout dans le monde, mais peut-être particulièrement ici, dans notre nation post-religieuse. Les gens me disent souvent, est-ce qu'on est dans une génération post-catholique? Non, je dis, on n'est pas dans une génération seulement post-catholique, on est dans une génération pré-chrétienne, pré-Jésus, où des générations vont entrer dans la plénitude de qui Jésus est. Et il y a dans le contexte était où l'apôtre Jean faisait face à deux murs, deux courants très puissants qu'il vient contrecarrer magnifiquement, qu'il vient défier, qu'il vient percer, à renverser les forteresses à travers son évangile. Le courant religieux du ritualisme et du pharisianisme des Juifs qui disait en fait, il n'est pas Dieu. C'est un prophète, c'est un enseignant, mais c'est pas lui, c'est pas le Messie, c'est pas Dieu. Et c'est quelque chose qui est très présent. La province de Québec encore aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui disent, Jésus, et tout le monde se l'approprie à sa sauce. Jésus, c'est un enseignant, Jésus, c'est un révolutionnaire, Jésus, c'est un justicier, Jésus, c'est un philosophe, Jésus, c'était un, puis c'est hallucinant de voir les différentes causes qui se l'approprient. Toutes sortes de choses, mais on peut pas dire qu'il est Dieu. Parce que s'il est Dieu, ça change tout. S'il est Dieu, je dois écouter ce qu'il dit. S'il est Dieu, c'est en lui seul que je peux avoir la vie, c'est pas chacun façonne sa religion à son goût. S'il est Dieu, s'il est le chemin, la vérité et la vie. Je ne peux pas venir au Père excepté par lui. Et c'est un courant qui est très présent. Et l'autre qui était très présent également, en même temps, simultanément, c'est ce qu'on a ici aussi, c'est le gnosticisme qui était une philosophie. C'était plus des si le ritualisme et le pharisianisme, bien sûr, venaient des Juifs. Le gnosticisme venait des Grecs, la pensée grecque qui disait, oui, il y a un ordre divin, il y a un Dieu, mais c'est des dieux, c'est mystique, c'est mystérieux, c'est éthérique. Dieu est Jésus est plus une émanation, il est introuvable, il est loin de nous, il est loin des hommes. Et ça aussi, vous allez avoir aujourd'hui de plus en plus de gens et même de, on va parler dans un instant de scientifiques et tout ça qui vont dire, c'est sûr qu'il faut qu'il y ait un ordre divin à quelque part, c'est sûr que ça s'est pas fait tout seul. Il y a une espèce de, mais c'est tel que toi tu le conçois, tel que toi tu le façonnes. On peut pas vraiment connaître Dieu. Certains disent non, il n'est pas Dieu, et d'autres disent non, il y en a un Dieu, mais on peut pas le connaître. Mais Jean arrive, il dit non, il est Jésus est Dieu, et tu peux connaître Dieu à travers Jésus, tu peux le suivre, le connaître et t'approprier de la source. Quelqu'un devrait dire oui. Non, là, maintenant, c'est le Créateur qui vient sauver sa création. La venue de Dieu sur terre, Dieu fait chair, est tellement significative que l'Esprit de Dieu nous inspire quatre différents auteurs, quatre témoins, quatre évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Matthieu, Marc et Luc, on appelle les évangiles synoptiques parce qu'ils ont plusieurs similitudes, mais l'évangile de Jean est particulier, on l'explore ensemble cet automne. Chacun a une utilité extraordinaire, mais l'évangile de Jean, il y a plus de 90% de son contenu que tu ne retrouves pas dans les trois autres. Il y a cinq des sept miracles trouvés dans Jean qu'on ne trouve pas nulle part ailleurs. Les sept « je suis » déclaratifs de qui Jésus est sont uniques à l'évangile de Jean. Il y a une prière, la prière dans Jean 17, une prière la plus personnelle, la plus intime, et que Jean a sans aucun doute entendu Jésus prier lui-même, la plus révélatrice du cœur de Dieu pour nous et pour son Église qu'on trouve dans l'Évangile de Jean. Les quatre évangiles sont comme, c'est comme si le Saint-Esprit faisait fonction d'une espèce de chef d'orchestre sur un quatuor à cordes. Chacun avec son instrument, Matthieu, Marc, Luc, Jean, qui joue chacun sa partition dans une harmonie extraordinaire, révélant qui Jésus est. Ou si vous préférez, c'est comme un cinéaste qui prend une scène avec quatre caméras, quatre angles différents pour nous donner la plénitude de qui Jésus est. Survol rapide. Les quatre évangiles que vous compreniez. Matthieu, l'évangile de Matthieu a été écrit avec une vision, une inspiration pour tous, mais particulière pour les Juifs de l'époque, pour les religieux. On y retrouve les paroles de Jésus. La phrase qu'on y retrouve, ce que Jésus a dit. Le mot accompli est retrouvé, répété, parce que il vient leur dire, voici à des Juifs qui connaissaient les prophéties, les promesses de l'annonce du Messie, c'est accompli, c'est en lui que c'est accompli. L'évangile de Matthieu, pour les Juifs, il va avoir la généalogie, commence avec la généalogie qui va jusqu'à Abraham, le père du judaïsme. Pour les Juifs, ce que Jésus a dit. Si Matthieu, ce que Jésus a dit, ses paroles, l'évangile de Marc, c'est pour les Romains. C'est les prodiges, pas les paroles de Jésus, c'est les prodiges de Jésus pour un public romain. C'est un évangile d'action, c'est le plus court évangile de Marc, tu peux le lire en 90 minutes si tu lis d'une traite. C'est un évangile de ce que Jésus a fait. Matthieu, ce que Jésus a dit, Marc, ce que Jésus a fait, confrontant les fausses déités romaines, les faux rois, les empereurs, les présumées puissances romaines. Marc souligne la puissance, l'autorité, les prodiges, l'action de Jésus pour les Romains. Luc écrit son évangile pour les Grecs. Matthieu, ce que Jésus a dit. Marc, ce que Jésus a fait. Luc, ce que Jésus a ressenti. Qui il était. Les Grecs cherchaient l'homme parfait, cherchaient l'incarnation de l'homme parfait, du modèle de l'humanité parfaite. Et il décrit dans l'évangile de Luc, vous allez avoir la sagesse parfaite, la perfection morale, spirituelle, sa compassion, sa sagesse, sa noblesse. Les philosophes grecs qui cherchaient la perfection, il dit, voici Dieu qui s'est fait homme. Et l'évangile de Jean, c'est littéralement qui est Jésus. Ses paroles, ses prodiges, sa passion, mais c'est aussi sa personne. Qui le Seigneur est. Si les trois premiers évangiles sont comme une photo rapide que l'on prend, l'évangile de Jean, c'est un portrait. C'est un portrait qui nous décrit qui Jésus est. Jésus était l'expression de qui Dieu est, la motivation et l'auteur de la source, Jean lui-même. Et lorsqu'on regarde à Jean lui-même dans l'Évangile, il y a différentes choses. On va découvrir un petit peu plus sur lui à chaque message. Mais Jean faisait partie d'un groupe de trois parmi les douze. Un groupe de trois, Pierre, Jean et Jacques. Les Québécois qui sont un peu plus vieux, quand j'étais jeune, il y avait une expression que je pense qu'on n'utilise plus beaucoup aujourd'hui. Ma mère, on disait, ça témoignait de l'arrière-plan religieux catholique. Ma mère disait souvent, là, va pas compter ça à Pierre, Jean, Jacques. Vous ne le direz pas comme ça à tout le monde, c'était Pierre-Jean-Jacques, c'était les trois. Alors, personne au Québec sait pourquoi ce qu'il disait ça, mais c'était Pierre-Jean-Jacques. Pensait que c'était Pierre-Jean-Jacques Baudouin qui restait sa rue Mauvois à côté. Non, c'est Pierre-Jean-Jacques. Et les trois, c'est parmi les douze, parmi la multitude, les multitudes, les 70, les 120, les 70, les 12, les trois, il y avait Pierre, Jean et Jacques. Que Jésus amène dans des moments particuliers, qui sont là pour la guérison de la fille de Jairus, pour la résurrection, annonçant ce qu'il était pour faire, sur la transfiguration, sur le moment où la semaine avant, à Gethsémani, les moments avant, les heures avant, c'est dans le jardin, il va amener Pierre, Jean et Jacques plus près de lui. Et Jean est aussi celui qui est l'auteur, est aussi celui à qui Jésus a confié sa mère. sur la croix, alors qu'il était, il est crucifié entre ciel et terre, portant le péché du monde sur ses épaules, torturé physiquement, mentalement, spirituellement, il a une pensée. Et la majorité des théologiens pensent et considèrent que probablement que Joseph, le père, était décédé et la mère était vulnérable, elle était pour être abandonnée. Et de la croix, quelle scène! Ça rappelle à tout le monde que le Christ sur la croix, il était là pour les multitudes, il était là pour le monde entier pour des années à venir, mais il n'y a pas de foule devant Jésus, il y a juste des personnes, il y a juste des individus. Il y a toi, il y a moi, et avec tes besoins, quels qu'ils soient. Et au pied de la croix, Jésus, de la croix directement, et Jean l'écrit dans son évangile, Jean chapitre 19, de la croix, Jésus dira à Marie, Marie, voici ton fils. Il dira à Jean, Jean, voici ta mère. Et dès ce moment, Jean dit, à partir de ce moment-là, je l'ai pris chez nous. À partir de ce moment-là, je l'ai pris. Jean avait recueilli physiquement, littéralement, Marie avec lui. Jean était le premier au tombeau, le premier à croire. Jean chapitre 20, les versets 1 à 18, ça nous rappelle le mix d'humanité et du divin, même dans les messagers et les auteurs des évangiles. C'est très homme, ça. C'est très gars. C'est très homme que lorsque tu es en train même de raconter quelque chose de très spirituel, de très extraordinaire, si tu as une chance de te mettre en valeur, on le fait. Est-ce que vous dites amen? Est-ce qu'il y a des femmes qui connaissent un gars comme ça? Regardez pas votre mari, faites juste dire amen si vous connaissez quelqu'un. C'est juste drôle. C'est juste drôle parce que Jean, il a le message éternel. Puis tant qu'il raconte dans l'Évangile, des années plus tard, certains disent, pas certains, c'est 25 ans, c'est 30 ans plus tard, il écrit l'Évangile de Jean. Puis il dit, lorsqu'on a appris, les femmes ont dit, le tombeau est vide. Moi et Pierre, on s'est mis à courir vers le tombeau, puis c'est moi qui est arrivé le premier. Who cares? Alors, mais, who cares? Mais Jean prend la peine de le dire, mais autre chose qui est intéressant, c'est que Pierre arriva, Jean chapitre 20, Pierre arriva, et il entra et il ne comprit pas. Puis on peut complètement avoir de l'empathie pour lui. Il n'avait rien, ce n'était pas saisissable humainement. Le tombeau est vide, il ne comprend pas. Mais Jean est entré, la Bible nous dit, il vit et il crut. Jean dit, lorsque je suis entré, j'ai vu et j'ai cru. Il était le premier de centaines de millions de personnes jusqu'à vous et moi qui voyons et qui croyons qu'il est Dieu. Il est ressuscité pour toi et pour moi. Et Jean, qui, comme aucun autre des autres évangiles, proclame la transformation sans limite, la capacité rédemptive, transformative de Christ, sans limite, avait un surnom. La Bible nous dit que même lorsqu'on liste les disciples, dans Marc chapitre 3, 17, que Jésus dit, les a nommés, et Jacques et Jean, les fils de Zébédée, auxquels Jésus donna le nom de Boanerges, qui voulait dire les fils de la colère, les fils du tonnerre. Il a raison. Imaginez-vous, remarquez que c'est Marc qui en parle. Jean ne fait pas mention de ça dans son évangile. Il n'était pas fier de ce surnom-là. Mais il y a quelque chose de puissant parce que c'est un homme, on n'a pas toutes les raisons, mais qui était habité de colère. Il y avait un esprit même, Jésus dira, qui l'animait. Qui a fait en sorte que lorsqu'ils arrivent, vous retrouvez ce récit dans les évangiles, Luc chapitre 9, ils arrivent dans un village de Samaritains. Et pour eux, tu peux imaginer les disciples qui étaient déjà dégoûtés d'être là, puis vous êtes chanceux qu'on arrive, ils demandent l'hébergement pour la nuit, il n'y a pas d'hébergement pour vous. Et là, vous nous dégoûtez, on vous fait l'honneur de notre présence et vous osez nous refuser. Ils vont littéralement dire à Jésus, Seigneur, donne l'ordre. Est-ce qu'on pourrait, s'il vous plaît, ça ne te dérange pas, voudrais-tu appeler le feu du ciel pour les consommer. Je veux une attaque nucléaire sur eux. Ici, maintenant, rase-moi ça à terre. Est-ce que vous me suivez? C'est pas tellement différent d'intégristes aujourd'hui qui, au nom de la religion, pensent qu'il y a une honneur pour Dieu ou un service pour Dieu d'assassiner des gens qu'ils considèrent comme des ennemis. Et Jésus, est tellement direct avec le fils du tonnerre, avec le fils embrasé de colère. Il dit à lui et son frère, Jean, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Le Fils de Dieu n'est pas venu pour condamner, il n'est pas venu pour perdre, il est venu pour gagner, il est venu pour sauver. Et j'aimerais dire à quelqu'un, Jean dans son évangile, la source se transforme encore. Je suis devenu l'apôtre de l'amour, non pas par mes efforts seulement ou par mes capacités. Non, la source a coulé en moi et quel que soit l'esprit qui t'animait, tu étais le fils de la colère, tu étais la fille de la peine, tu étais le fils du désespoir. Tu étais la fille des promesses brisées. Tu es le fils et la fille de Dieu. La source coule et elle transforme encore des vies aujourd'hui. Quelqu'un devrait applaudir la source qui coule, qui va jaillir dans ce lieu pour transformer. Le message et les aspirations Qu'est-ce que Dieu désirait? Qu'est-ce que Dieu voulait? Quelle était l'aspiration de Dieu? Je voudrais que mon peuple saisisse et comprenne à travers. Qu'est-ce que Dieu veut nous communiquer? Quelle est la source, le message et les aspirations de la source? On va les découvrir pendant tout l'automne. Mais dans le chapitre 1, il y a ce désir de Dieu, dans les premiers versets, que chaque personne puisse comprendre, puisse connaître et puisse croire que Jésus est la source de toute création dès le commencement. Dans Jean chapitre 1, versets 1 à 4, les premières paroles de Jean. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La parole, c'est Jésus sans lui. En effet, elle était la vie, la source, Christ. La vie. Et la vie était la lumière des hommes. Matthieu débute ses généalogies jusqu'à Abraham, qui est le père du judaïsme. Luc, là, commence, il ira jusqu'à Adam. Mais ici, dans l'évangile de Jean, Jean remonte au commencement des commencements. Il dit littéralement, Jésus était là au commencement des commencements. Il a toujours été, il n'a jamais pas été, il est Dieu. Il est la source de toute création. Il est Dieu. Il était là du début. Il n'a jamais changé. Il était là du début lorsqu'il appelle la parole. Les Juifs, par respect et révérence, n'utilisaient pas avec leur bouche le Yahweh ou l'Adonai. Ils l'appelaient la parole, le Hemra en hébreu, le Logos. Traduit en grec, c'est la parole. Lorsque vous dites l'Ancien Testament, la parole de l'Éternel, la parole qui se meut au-dessus de ce qui est informe et vide, et Dieu dit, Jésus est encore le Créateur. Il n'est pas seulement celui qui va te patcher, celui qui va te réparer, te recoudre pour que tu puisses survivre. Il est le Créateur. Il peut créer un cœur nouveau, créer un mariage nouveau, créer un cas nouveau, créer une joie nouvelle, créer un homme ou une femme nouveau. Il est le Créateur depuis le commencement. Toute chose a été faite par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Tout a été fait par lui, il est créateur dès le commencement, la source de la vie depuis le commencement. C'est un combat. C'est un combat qui est personnel, qui est spirituel pour chacun d'entre nous dans certaines sphères de nos vies où le combat est intense et peut-être parfois où vous avez reculé d'un pas dans votre foi à croire que Dieu peut encore, que Jésus peut encore créer. Créer quelque chose dans le cœur d'un enfant, d'un adulte, de ton couple, de ta vie, de ton mariage, de tes propres pensées, te sortir d'un deuil, te sortir d'une incompréhension. Il est le Créateur. C'est un combat qui est là. Puis c'est un combat qui est là aussi. Je regarde beaucoup, beaucoup de jeunes qui sont ici dans les deux réunions ce matin. Un combat qui est là même dans notre société, dans certaines sphères de la science, ou même l'idée même d'un Créateur essaie d'être bafoué. Mais il y a je dirais de cette façon, les scientifiques finissent toujours, éventuellement, par poser les bonnes questions. Louis Pasteur a dit, un peu de science t'éloigne de Dieu, beaucoup de science t'y ramène. Et une des choses qui prend place en ce moment dans le monde scientifique depuis les derniers 10 ans, 15 ans, c'est exponentiel. Il y a un nombre incalculable et en accéléré exponentiel de scientifiques qui reviennent à... Il y a une source. Il faut qu'il y ait une intelligence, intelligent design. Il faut qu'il y ait quelqu'un derrière. J'ai une citation qui m'a fasciné, qui a paru par le Wistar Institute, qui a paru dans un magazine scientifique du MIT, du Massachusetts Institute of Technology, et c'était surtout, et eux citent plus de 300 articles et ouvrages scientifiques qui ont été publiés dans le dernier 15 ans, appuyant la pensée de, la pensée de Jean 1:1, au commencement, il y avait une source, il y avait un créateur dès le commencement. Et ils ont posé une question, un groupe de 50 mathématiciens, physiciens, astrophysiciens, biologistes et éthiciens, et j'aimerais vous lire la question. La question était ceci. Si le temps nécessaire était alloué, est-il possible, selon les lois mathématiques et des équations de probabilité calculables et mesurables, que des multiples processus naturels simultanés et scientifiques identifiables et non identifiables aient pu être responsables de l'initiation fusionnelle menant à l'apparition et au développement exponentiel de la vie animée, structurée et organisée telle que manifestée et mesurée par les avancées de la science moderne? Ça, c'est la question. Voulez-vous entendre la réponse? La réponse est 130 pages. Je vais vous les lire ce matin. Non, un résumé d'un résumé d'un résumé. La question, c'est possible si là, c'est le temps que ça, je vous le simplifie, que ça se fasse tout seul. Ça arrive juste mathématiquement. Et 50 mathématiciens, physiciens, astrophysiciens, biologistes, éthiciens, une portion, c'est juste un extrait de la réponse. Un extrait de l'article qui vient de l'étude de 130 pages. Voici la réponse. Je sais que vous allez crier « Amen » à mesure que je dis la réponse. Basé sur notre compréhension des lois, de la chimie et de la physique, des études approfondies des possibilités de différentiels et des mathématiques avancées, des lois et principes et dynamiques aléatoires reconnus ou présumés, lâchez-moi pas, il n'y a pas de conclusion scientifique raisonnable pouvant mener à des possibilités ou plausibilités statistiques d'une autofusion, des éléments aléatoires initiaux pouvant ou de quelque façon logique et empirique produire la diversité et complexité de l'univers, de la vie animée et structurée et des processus reproductifs tels que nous les connaissons. » Je vais vous le simplifier. Ça se peut pas! Jean chapitre 1, il y a un créateur au commencement. Jésus, Dieu, et il peut créer des choses dans ton cœur encore. Ils sont en fait revenus, de plus en plus reviennent à ce qu'on appelle l'argument de Paley, William Paley. Mais 1743-1805 a écrit un livre qui est cité partout dans le monde, Natural Theology. Puis lui avait l'argument de la montre. Il disait littéralement ceci. Si en traversant, je vous cite directement son livre, « Si en traversant un désert, je marche sur une pierre et que je me demande comment cette pierre se trouve là, je pourrais en rendre compte d'une manière possiblement satisfaisante en disant que de tout temps, cette pierre a été dans ce lieu. Supposons qu'au lieu d'une pierre, j'eusse trouvé une montre. » La réponse qu'elle a été de tout temps dans le même endroit ne serait pas admissible. Cependant, pourquoi cette différence? Pourquoi la même réponse n'est-elle pas applicable? Parce qu'à l'examen de cette machine, je découvre que je n'avais pas pu découvrir dans la pierre, à savoir que ces diverses parties sont faites les uns pour les autres, que dans certains buts, ce but est le mouvement et que ce mouvement tend à nous indiquer des heures. Une fois le mécanisme saisi, les conséquences des faits me paraît évidentes. Il faut que cette machine ait été faite par un ouvrier. Il faut qu'il existe un ouvrier ou plusieurs qui aient en vue le résultat. J'observe lorsqu'on fabrique cette montre. Le prix Nobel de biologie François Jacob commande sur Paley le formule ainsi. De fait, la principale preuve de l'existence de Dieu a longtemps été l'argument d'intention, développé notamment par Paley dans sa théologie naturelle, publié plusieurs années avant l'origine des espèces. Cet argument est le suivant. Si vous trouvez une montre, et vous ne doutez pas qu'elle a été fabriquée par un horloger. De même, si vous considérez un organisme un peu complexe, avec l'évidente finalité de tous ses organes, comment ne pas conclure qu'il a été produit par la volonté d'un créateur? Car il serait simplement absurde, dit Paley, de supposer, par exemple, que l'œil humain, avec la précision de son optique et sa géométrie, aurait pu se former par hasard. Je vous donne cette montre-là ici m'a été donnée en cadeau par l'Église Nouvelle Vie. Je pense que c'était notre 25e ou mon 30e de ministère. C'est une montre que j'aurais pas eu moyen de m'acheter. C'est une super belle montre qu'ils m'ont donnée en cadeau, une montre que je porte avec fierté. Mais deux mois après qu'ils me l'ont donnée, elle est encore belle, elle brille encore. Il y a juste une chose qu'elle faisait pas, elle disait plus l'heure. Alors, je suis allé voir les gars, j'ai écouté les gars, elle est magnifique, j'ai jamais eu une montre comme ça, là. Mais elle ne dit pas l'heure, elle est brisée. Alors, oh, pas de problème, il y a une assurance, il y a une garantie, garantie à vie. Ah, bien, merveilleux, j'y donne. Savez-vous combien de temps ils ont gardé ma montre? 4 mois. Il y a un gars de l'église, Simon, qui est super fin, il m'a donné une montre à 12$. Elle marche encore, elle fonctionne très, très, très bien. Mais le point est que, savez-vous pourquoi ça a pris 4 mois? Parce que juste ça, là, pas l'univers, pas les planètes, pas la galaxie, pas l'être humain, pas le cœur, pas le cerveau, pas l'œil, pas... Non, juste cette montre-là, à l'intérieur, il y a toutes sortes de... Il y a des milliers de mécanismes qui s'enclenchent et qui prouvent qu'elle peut pas juste arriver. Si je vous disais, si je vous proposais, voici maintenant cette montre, qu'est-ce qui est arrivé? Il y a des millions d'années. Il y a une collision et une série infinie d'explosions indéfinies de minéraux, d'atomes, de protons formant des millions de volcans, produisant des millions d'autres explosions d'une variété infinie de matières que personne n'a créées, qui se sont matérialisées elles-mêmes de façon absolument inexplicable durant d'autres millions d'années avec des milliers de hasards aléatoires successifs et indéfinis dans une mixture d'éléments, d'événements cellulaires et chimiques et que tout à coup surgit du sol ma montre. Tout le monde trouve ça absurde et insensé, mais lorsqu'on regarde à l'univers, ça s'est passé ainsi. Je reviens à Jean, chapitre 1, verset 1. La source te rappelle, il y a un créateur. Et ce créateur, tu vas le découvrir en Christ. Ce créateur
vient pour sauver sa création. C'est quoi l'aspiration biblique? C'est qu'il est, que tu puisses croire, comprendre qu'il est la source créatrice du commencement et qu'il est la source qui communique la vie. Ah, c'est tellement beau le verset 4. Elle était, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Pas la vie physique seulement. Lorsque vous trouvez le mot « vie » dans le Nouveau Testament, vous allez trouver, dans le grec original aussi, vous allez trouver trois mots. Vous allez trouver le mot « bios » qui parle du souffle. Et l'être humain est bien plus que son souffle. Le monde moderne réduit la vie à mon cœur qui bat, le souffle, juste l'extérieur, l'enveloppe. Mais la Bible est bien plus profonde que ça. Un être humain, ce n'est pas juste un ensemble d'os et de ligaments et de nerfs et de sang et un cœur qui pompe. La vie, c'est le souffle. Dieu donne la vie, le souffle, mais il est aussi le créateur du souké. La vie, l'être humain, selon la Bible, a une vie qui est mentale, qui est psychologique, qui est humaine, qui est émotionnelle, qui est dans ses pensées. Et c'est seulement le même Dieu qui donne la vie physique et le seul qui peut communiquer, guérir, à sauver, relever, restaurer cette vie. Et même ultimement, non seulement bios, souké, une vie mentale, une vie psychologique, émotionnelle, une vie physique, mais le mot utilisé ici est le mot, lorsque Jésus a dit dans Jean 10:10, « Je suis venu afin que vous ayez la vie », c'est le mot « zoé » qui veut dire une vie abondante, une vie totale, une vie de plénitude, de grâce en grâce, une vie qui est éternelle, une vie qui commence sur cette terre, mais qui ne finit jamais, que Jésus donne une vie d'abondance, une vie que tu peux seulement découvrir lorsque tu crois, lorsque tu comprends qu'il est la source de toute création, il est la source qui communique la vie, et dans le chapitre 1, qu'il est la source, que Jésus est la source qui nous permet de connaître Dieu le Père. C'est tellement puissant, comment Jean le dit dans chapitre 1, verset 18, « Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui nous le fait connaître. » Bien-aimé, la Bible dit que Dieu a mis dans l'être humain une portion d'éternité. C'est pour ça que chaque être humain, quelque civilisation que ce soit, et même les plus endurcis des élevés dans une génération de mépris pour tout ce qui est religieux, il y a quelque chose en nous, there's a quest. Il y a un cri, j'aimerais ça. Est-ce que Dieu existe? Puis s'il existe, il a l'air de quoi? Lorsque Moïse a dit, Seigneur, montre-moi, je veux te voir, je veux voir ta gloire. Dans le Deutéronome 33, il exprimait quelque chose, un cri universel. Il ne manquait pas ceci, c'est tellement important. Dans une province comme la province de Québec, lorsque la religion a défiguré Dieu et détruit son image, des générations entières dans leur douleur en viennent ou à nier son existence ou à se créer leur propre Dieu, leur propre guide, leur propre aide du ciel. En 2017, dans certains cercles, tu disais, n'importe où, tu dirais, je crois en Dieu, je prie Dieu. Ah, comment ça, t'es bien? Mais si quelqu'un dit, et c'est courant, je le dis pas avec mépris, si quelqu'un dit, bon, mais moi, avant chaque spectacle, je parle à mon père, je dis à mon père me guide, mon enfant me guide, ma mère, ma tante, se crée un Dieu. Il y a une promesse entière que l'image, le visage, la personnalité du Père qui leur a été donnée a tellement défiguré, a tellement blessé que c'est où, de génération en génération, c'est où que je dis qu'il n'existe pas ou je me le façonne moi-même. Mais il y a encore dans le cri du cœur humain, il y a encore de « je voudrais voir Dieu ». Il n'est pas seulement dans des bâtisses, il n'est pas seulement dans des clochers. C'est ce que Salomon a dit lors de la dédicace du temple. Salomon est en relation avec Dieu et Dieu à son père et à lui, ils ont bâti un temple. Mais à la dédicace, 2 Chroniques 6, 18, Salomon dira ceci, c'est fascinant. Il est en train de dédier le temple devant tout le peuple qui est là. Il écoutait sa question, elle est tellement intrigante. Il dit, mais quoi? Voici les cieux, et les cieux des cieux ne peuvent pas contenir Dieu. Comment cette maison pourrait-elle le contenir? Et voici la question. Dieu, Salomon pose la question fascinante. Dieu, 2 Chroniques 6, 18, habiterait-il vraiment avec l'homme sur la terre? La réponse est oui, Dieu habite, révèle qui il est, habite avec l'homme sur la terre par Jésus-Christ. C'est pour ça que Matthieu, de Moïse à Salomon, aux hommes de tous les âges, à aller jusqu'à Philippe, qui dans l'évangile de Jean 14, Jésus leur dit, « Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu, parce que vous m'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffira. » Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec toi, Philippe, et tu ne m'as pas connu. Celui qui m'a vu voit le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas par moi-même. Le Père demeure en moi. C'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis le Père et le Père est en moi. Croyez-moi, du moins à cause des œuvres. C'est pour ça qu'ici, depuis 24 ans et pour les prochains mois, on ne proclame pas une religion, un mouvement, une église, un changement d'église, un gourou, un pasteur. On proclame celui qui révèle le Père. On proclame Jésus. Et si tu le connais, lui, tu vas savoir qui Dieu est. Savoir qui Dieu est. Laisse pas la religion te dire qui Dieu est. Laisse pas quelqu'un qui t'a blessé ou détruit. Laisse pas un représentant religieux dans son humanité te donner une image de qui Dieu est. Laisse Jésus te dire, te montrer à chaque dimanche, cet automne, qui Dieu est. J'enseignais cette semaine une classe à l'Institut de théologie pour la francophonie avec classe de leadership. Il y avait 70 étudiants qui sont là et de partout à travers le Québec, mais aussi de différents pays. Il y avait un couple de France, un petit couple là, qui a 25 à 30 ans, qui sont venus, sont ici pour faire leur baccalauréat en théologie, puis sentent un appel au ministère. Puis après la pause, ils viennent me voir et me disent « Oh, Pasteur Claude, tellement heureux de te voir. Ah, je ne peux pas croire, moi et ma femme, qu'on est assis ici, deuxième rangée. On est assis ici puis qu'on te voit en personne. » Il dit « Tu crois, ça va être dur pour vous d'imaginer, et je vous avoue que ça ne te fait pas rajeunir. » Il dit « Moi, depuis que je suis tout jeune, Je suis vos messages. J'écoute les messages. J'écoutais après ça en vidéo. À chaque semaine, j'étais assis. Vous êtes mon pasteur. Je vous connais à travers le vidéo. C'est comme un autre étudiant qui était venu me voir pensant me faire un compliment. Il est venu me voir après la classe puis il me dit, c'est le fun de voir quelqu'un de votre âge qui a encore le feu. Bon, c'est sûr que cet étudiant étudie dans un autre institut biblique maintenant, mais bon. Je suis quand même le président du CA, hein, alors j'ai déjà... Mais lui, il me dit, écoutez, Pasteur Claude, je vais juste vous dire comment est-ce que les messages ont un impact. Il dit, non seulement moi, mais il dit, nous, on était... Il dit, mon frère avait vécu des affaires terribles dans sa propre vie, et l'Église l'a rejeté, l'Église l'a méprisé, alors qu'il a traversé des choses terribles dans sa vie. Et il est venu fou de colère contre l'Église, et puis il a dit, si c'est ça Dieu, et pendant des années, il était loin de tout, il fouillait dans toutes les... Il a essayé toutes sortes de religions de nouvel âge, toutes sortes d'affaires mêlées à une vie débridée, mêlée à la consommation, toutes sortes de choses, il était suicidaire, il était tout croche. Et un jour, ils étaient assis ensemble à lui et son frère, et puis son frère parlait... Et celui qui est chrétien, celui qui est dans la classe, dit, bien, écoute, le Seigneur Jésus, il a dit que... Puis il dit, comment, puis lui, ça a comme sorti de lui. Il dit, comment est-ce qu'on peut... Pourquoi tu dis ça? Comment est-ce qu'on peut savoir qui Dieu est? Tu sais pas qui Dieu est. Puis, on peut pas le connaître. On peut pas savoir. Regarde ce qu'on a vu. Regarde ce qu'on a vu. On peut pas savoir qui Dieu est. C'est ça que Moïse a dit. Je veux savoir qui tu es. C'est ce que Salomon a dit. Dieu peut-il vraiment amener habiter parmi les hommes? C'est ce que Philippe a dit. Montre-moi Dieu le Père. Jésus a dit, regarde-moi, tu vas connaître le Père. Et lui a dit à son frère, ah, tu dis ça? Parce qu'il avait commencé à écouter une série qu'on avait apportée qui s'appelait « Le Jésus qui dérange ». Puis il a dit à son frère, ah, tu dis ça, mais tu veux même pas savoir. Moi, je te lance un défi, viens, on va prendre un temps, un soir par semaine, puis on va écouter la série, on va regarder ensemble « Le Jésus qui dérange ». Je veux pas écouter ce Québécois, pourquoi un gars du Québec, gourou du Québec, je veux pas écouter du Québec. Et après ça, il a convaincu de venir s'asseoir, commencer à écouter, mais il dit, on comprend rien lorsqu'il parle avec son accent du Québec. Mais dans les semaines qui ont suivi, don d'interprétation de la langue québécoise a été accordé. C'est mis à comprendre. Puis des discussions animées, des fois des larmes, des fois de la rage. Mais il y a un soir où dit, j'écoutais on écoutait une prédication de Jésus qui dérange. Comment est-ce que Jésus exprime qui le Père est et comment amour et compassion, son amour et sa fidélité et son action, sa libération. Puis je me tourne et mon frère, les larmes, mon frère s'est mis à genoux. Mon frère a redonné sa vie à Jésus. Mon frère a été baptisé et maintenant mon frère est le leader du groupe de jeunesse chez nous. Je vous parle d'un automne où des milliers vont découvrir qui Dieu est à travers la source qui est Jésus. Applaudissez avec moi. La motivation est l'auteur de la source, le message et les aspirations de la source. Je termine avec ceci. Le miraculeux qui dépend de ma réponse à l'appel de la source. Notre réponse détermine le miraculeux. Jean chapitre 1 et au verset 9, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire. Elle éclaire. Et quand tu as été dans les ténèbres pendant longtemps, lorsque la lumière vient, au début, c'est là, tu t'habitues à la lumière. Ça, c'est la lumière qui éclaire. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle, mais le monde ne l'a pas connue. Pire, elle est venue chez les siens. Le Créateur est venu sauver la création, mais les siens ne l'ont pas reçue. Ce message n'est pas seulement pour quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, qui est ici ou qui va entendre ce message. Il est pour nous comme croyants, qui après un certain temps, on l'a reçu comme Seigneur Sauveur, mais il y a des sphères de nos vies où j'arrête de lui permettre de recevoir sa lumière, de lui permettre de faire la lumière. Et cet automne, mon cri, c'est « Seigneur, je veux que tu te permettes de mettre ta lumière dans chaque aspect de ma vie, de plénitude en plénitude. » Parce qu'après, il dit la réponse détermine, il y a ceux qui ne le reçoivent pas. Mais le miraculeux est terminé par la réponse. Et là, après ça, il arrive au verset qui est mon verset de vie. On a plusieurs versets de vie, mais celui-là a capturé mon cœur à l'âge de 17 ans jusqu'à aujourd'hui. Jean chapitre 1 et le verset 12. « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il y en a qui ne le reçoivent pas, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir. » Voulez-vous dire à voix haute avec moi, le pouvoir de devenir. Le pouvoir de devenir des enfants de Dieu, non pas par la volonté de la chair ou la volonté d'homme, mais par la volonté de Dieu. Quel que soit ce qu'a été ton hérédité, quelle que soit la famille d'où tu viens, quel que soit ce qui t'a été donné ou ce qui t'a été pris, quel que soit ce que tu avais qu'on t'a enlevé, quel que soit ce que tu n'as jamais eu, quel que soit ce que les hommes ont fait, la volonté de l'homme ou la méchanceté de l'homme t'a fait ou ne t'a pas donné, tu es un enfant de Dieu et tu as en toi le pouvoir par Jésus-Christ d'aller à la source et de devenir ce que Dieu avait pour toi. Voulez-vous crier avec moi, je veux devenir. Devenir la source. Et c'est la simplicité. C'est tellement la simplicité, le surnaturel de l'appel. Chapitre 1, verset 43. C'est encore comme ça aujourd'hui, depuis 2000 ans. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée, puis il rencontra Philippe, il lui dit, suis-moi, viens. Puis je vais te donner le pouvoir de devenir. Et tout le long du chapitre, Jean-Baptiste, c'est personnel. Ah, vous dites, oui, mais c'est des millions et millions et millions de chrétiens depuis ce temps-là, des gens qui ont répondu à l'appel du soir. Oui, mais c'est Jean-Baptiste, c'est Philippe, suis-moi. Claude, suis-moi. Chantal, suis-moi. Daniel, suis-moi. Georges-Marie, André, suis-moi. Suis-moi. Notre réponse à son appel, et c'est un appel d'amour. C'est l'amour qui nous appelle à la source. La Bible nous dit que, je termine en vous présentant Jean. Une des particularités de Jean, il faut que je le dise dans le message d'intro, c'est que Jean se nommait lui-même d'une manière particulière. 5 fois dans l'évangile de Jean, il se nomme d'une certaine façon. Il se nomme d'une manière qui peut nous faire sursauter. Dans Jean chapitre 13, versets 21-23, par exemple, il y a cinq exemples. Il le fait tout au long jusqu'à la toute fin. On a ce moment où, ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé par son esprit. C'est le dernier souper avant la crucifixion et la résurrection. Jésus fut troublé en son esprit. Il dit expressément, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant pas de qui il parlait. Et c'est Jean qui écrit cet évangile. Il dit, un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur sa tête, sur le cœur de Jésus. Ah bon? Jean se décrit comme celui que Jésus aimait. 4 autres fois, il va dire le disciple que Jésus, pas un des, non, non, le disciple que Jésus aimait. Ça ne traduira pas du tout en Europe, mais au Québec, on dirait, il ne se prenait pas pour du 7-Up flat. Hein? Écoute, excusez-nous, le disciple que Jésus aimait. Je crois profondément que ce n'était pas arrogance ou prétention, ce n'était pas une gloire personnelle. C'était une guérison profonde. J'étais le fils du tonnerre, mais je suis maintenant devenu le fils du témoignage. Je suis celui que Jésus aime. Ce n'était pas prétentieux. Il avait une nouvelle promesse. Ce n'était pas arrogance, c'était une assurance. Ce n'était pas réduire les autres, c'est moi. Non, il a une révélation. Ce n'est pas un cœur orgueilleux ou arrogant. C'est un cœur qui s'est ouvert à son amour. Jean avait compris que chaque personne peut dire sans aucune arrogance, « Je suis le disciple que Jésus aime. » Tu es le disciple que Jésus aime. Ah, ben, parce que tu ne sais pas les échecs que j'ai eus, tu ne sais pas les gaffes que j'ai faites, tu ne sais pas le mariage que j'ai fait exploser, tu ne sais pas les choses secrètes que moi je sais sur moi-même, puis... Je ne peux pas m'approcher de la source parce que regarde comment l'apôtre Jean, qui est devenu l'apôtre de l'amour, nous révèle en nous disant celui que Jésus aimait, que la seule accès que nous avons à la source, ce n'est pas nos engagements et nos promesses, c'est son amour. Puis il y a un autre exemple de ça. Un autre exemple de ça, c'est l'exemple qu'on trouve avec, en terminant avec Marthe et Marie. Vous savez, vous connaissez le contexte de Lazare qui était malade, Marthe et Marie. Lazare avait deux sœurs. Une grande, on connaît par les textes, il y avait une sœur aînée, puis une sœur. Et Lazare étant les deux. Il y a une sœur aînée, puis sa sœur plus jeune. Il y a deux sœurs. Et dans les évangiles au complet, on ne trouve jamais. Lazare ne dit pas un mot. Il ne pouvait pas. Il y avait deux sœurs. Alors, c'est ça qui. Et dans l'évangile de Jean. Ses sœurs parlent pour Lazare. M'en vous dire, Lazare, laisse-moi dire quelque chose. Jésus m'a dit quelque chose à propos de mon frère. Et Lazare est malade. Lazare est à la mort malade. Et ses sœurs vont envoyer un message. Ils envoient un message à Jésus. Vous lirez ça dans l'Évangile de Jean au chapitre 11. Lazare est mourant, il est mourant à la mort. Et il faut qu'on envoie quelque chose à Jésus pour qu'il bouge, faut qu'il vienne guérir, faut qu'il agisse. C'est tard, c'est grave. On va envoyer quelque chose, il faut convaincre le Seigneur. Est-ce qu'il va dire, oublie pas que Lazare, la fidélité de Lazare, les promesses de Lazare, le Lazare venait à l'église toutes les semaines, il était assis dans la troisième rangée. Lazare, qu'est-ce qu'on va dire? Comment est-ce qu'on peut, à quoi est-ce qu'on fait accès, à quoi est-ce qu'on fait appel lorsqu'on veut accéder à la source? Les sœurs envoyèrent dire, Jean chapitre 11, verset 3, ça l'a marqué Jean, il ne l'a jamais oublié. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, et tu peux voir Jésus ouvrir le message, c'était pas long, mais c'était puissant. Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Le disciple que tu aimes. Jean dit, je suis le disciple que j'ai. Non, celui que tu aimes. Lazare et ses sœurs étaient très proches de Jésus, même au niveau, c'était la famille qu'il n'avait pas dans sa famille humaine. Alors que même à différents moments, on les voit ensemble. Et même la semaine avant la crucifixion, c'était la maison de Lazare, Marthe, Marie. Et ceux dans la Bible qui s'approchaient proches de Jésus, pas de la religion, ceux qui s'approchaient très près de Jésus, apprenaient à le connaître, à le côtoyer, étaient marqués à vie par son amour. Son amour inconditionnel, son amour que je ne peux rien faire de plus pour qu'il m'aime plus. Je ne peux rien faire de moins. Je ne peux pas. C'est juste par son amour que je m'approche de lui, que je peux revenir à la source et dire, viens, viens Seigneur, cet automne, me révéler à nouveau tes plans, ta volonté. J'ai invité les musiciens à s'approcher maintenant. Viens faire ton œuvre en moi. Viens me guérir. Viens, Seigneur Dieu, me faire goûter de ta plénitude de grâce en grâce. De faveur non méritée en faveur non méritée. La plupart d'entre nous qui sommes venus au Seigneur avons compris qu'on vient à Jésus par la grâce, la faveur non méritée que lui prend tout à la croix, meurt pour nous afin que nous puissions mettre tous nos fautes, péchés, méchanceté, mal, passé, présent, mensonge, tromperie, méchanceté, égoïsme et autres sur lui afin que passé, présent, futur soit guéri. Et je m'approche de lui par grâce, mais c'est très, très insidieux par la suite de penser d'une certaine manière qu'après être entré par la grâce, après ça, est-ce que je l'ai mérité? Est-ce que j'ai fait ça? Non, on s'approche de la source ensemble cet automne par son amour. Je suis le disciple que Jésus aime, tu es le disciple que Jésus aime. Je m'approche à lui, celui que tu aimes est malade. Celui que tu aimes a besoin d'être restauré. Celui que tu aimes a besoin d'être guéri. Celui que tu aimes, Seigneur, malgré le fait que je ne mérite rien. Viens à toi. J'ai soif de la source. Au nom de Jésus, l'Église Nouvelle Vie dit Amen. Les musiciens vont commencer à jouer ce chant magnifique, ce nom si merveilleux qui est littéralement le chant qui va, avec lequel nous allons prendre la communion, nous allons prendre le repas du Seigneur. J'invite l'équipe à s'approcher et à prendre place. Jean le dira même dans 1 Jean 4, 10, il le dira de cette façon, transformé par l'amour. Il dira, « Cet amour consiste non pas que nous avons aimé Dieu. Nous l'aimons par la suite, nous l'aimons, mais l'amour qui change tout est cet amour, non pas de moi que j'ai. C'est pas que nous avons aimé Dieu, c'est que Dieu nous a aimés. Il a envoyé son Fils pour donner sa vie pour nous. » Alors, dans les derniers instants ce matin, mais des instants qui ouvrent un automne qui va tout changer, je vous invite que ça soit tout nouveau ou que ça fait 30 ans, 40 ans, 50 ans que vous marchez avec Dieu. Voulez-vous fermer vos yeux avec moi? Et pendant un moment ce matin, alors que nous allons prendre la communion ensemble, que nous allons adorer le Seigneur et chanter ce nom si merveilleux, le nom de Jésus. Si vous êtes ici ce matin, vous dites, Seigneur, il faut que je revienne à toi. Je me suis éloigné de toi, où je n'ai jamais vraiment ouvert mon cœur à toi, mais ce matin, je veux déclarer, je crois. J'ai encore mes questions, mes doutes, mais je crois que tu es Dieu, que tu es le Fils de Dieu, et que tu as le pouvoir de me pardonner, de me laver, de me purifier. Je veux venir boire à la source cet automne. Je veux changer. Puis il y a quelque chose que je veux te remettre. Je ne peux rien faire, mais toi, tu peux créer à nouveau. Créer un mariage nouveau, créer un cœur nouveau, des pensées nouvelles, créer un cœur nouveau en moi-même ou en quelqu'un près de moi. Seigneur mon Dieu, ce matin, nous voulons élever ce nom si merveilleux. Je viens à toi. Je reviens à toi. C'est ton amour qui m'attire. La seule mérite, la seule façon que je peux m'approcher de la source, c'est en disant, je suis le disciple que tu aimes, qui ne mérite rien, mais de grâce en grâce, de faveur non méritée en faveur non méritée. Je m'approche de toi aujourd'hui pour te louer, pour t'adorer. Nous allons distribuer les éléments, retenez le pain et le vin. Mais pendant que nous chantons, pendant que nous célébrons, pendant que nous adorons le Seigneur, ouvrez-lui votre cœur, laissez la révélation envahir, marquer votre âme. Vous êtes la disciple que Jésus aime. Nous allons ensemble nous approcher de la source. Nous allons redécouvrir qui Dieu est. Il va créer en nous son œuvre miraculeuse. Ce nom est si merveilleux.